cette seconde partie de la Grande Table consacrée aux idées. Notre invité est sociologue, anthropologue, démographe et il a été tout récemment nommé par le ministre de la Culture à la présidence du Conseil d'orientation du Musée national de l'histoire de l'immigration. Il prend la suite de l'historien Benjamin Stora, qui y était depuis 2014. Bonjour François Héran.
Bonjour.
Vous êtes aussi titulaire de la chaire Migration et Société au Collège de France depuis janvier 2018. Par le passé, vous avez dirigé la division des enquêtes et études démographiques de l'INSEE, c'était de 93 à 98. Puis vous avez pris la tête de l'INED, entre donc l'Institut National d'Études Démographiques, entre 99 et 2009. Vous y avez mis en place notamment l'étude Trajectoire et Origine, qui permet d'avoir des données, une meilleure visibilité sur les trajectoires des migrants et de leurs descendants en France et donc sur les discriminations dont ils peuvent faire l'objet. Pour citer simplement deux de vos ouvrages, je parlerai de « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir », c'était aux éditions La Découverte en 2017, et plus récemment, votre leçon inaugurale au Collège de France a été publiée aux éditions Fayard, François Héran, « Migration et société », c'est son titre. Vous avez enfin présenté le 17 septembre dernier à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale les données dont vous disposez sur l'immigration. Bref, vous êtes investi depuis longtemps et très fortement dans ce débat, notamment en tentant de lui apporter un certain nombre de données concrètes, scientifiques, pour pouvoir mener ce débat de façon dépassionnée. Or, il faut bien reconnaître, François Héran, que la passion n'est jamais très loin sur ces questions d'immigration. Un mot quand même de cette actualité, celle du président de la République qui est à Mulhouse et qui alerte sur le séparatisme supposé d'une partie de la population française de confession musulmane. Je vous propose de l'écouter et puis après de réagir.
Je ne peux bien entendu rester silencieux sur la question du communautarisme, de l'islamisme politique, tant évoqué ces dernières semaines et ces derniers mois dans notre pays. Je ne veux rien cacher ici de la réalité que beaucoup d'entre vous vivent. Dans certaines communes, dans certains quartiers, progresse depuis quelques années un projet de séparation d'avec la République. C'est une réalité. Ce sont les revendications sur les horaires réservés aux femmes dans les piscines, ces espaces publics où la mixité n'est plus possible. Ce sont ces pressions exercées dans certains services publics, certaines entreprises. Ce sont aussi des services communautaires qui cherchent à se substituer à la République.
Alors François Héran, là c'était le président de la République Emmanuel Macron qui s'adressait en novembre dernier au maire de France. C'était pas aujourd'hui à Mulhouse, on attend encore son grand discours. Mais un mot tout de même sur ce choix de parler de séparatisme.
Je pense que l'idée de parler de séparatisme plutôt que de communautarisme est une bonne idée. Ça n'est pas la même chose, parce que communautarisme est une expression extrêmement floue. Quand les sociologues veulent mesurer le communautarisme, ils prennent des indicateurs du genre la propension à se fréquenter entre soi, la propension à s'épouser entre soi, etc. Et quand on regarde ces indicateurs-là, ben, on s'aperçoit que le communautarisme, il existe un peu partout. L'enquête Trajectoire et Origine, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, que je n'ai pas dirigée, mais que j'ai défendue devant les autorités de contrôle, montre que la propension des musulmans croyants à s'épouser entre eux est à peu près du même ordre que celle des catholiques croyants à s'épouser entre eux, ou des protestants, et même des personnes sans religion. Il y a eu déjà maintenant plus d'une dizaine d'années un essai tout à fait intéressant d'Éric Morin sur qui s'appelait Le ghetto français, essai sur le séparatisme social, qui rappelait qu'en réalité tous les groupes sociaux fuient les autres, fuient les groupes immédiatement inférieurs, que ça se traduit par des trajectoires résidentielles, des choix de résidence, de quartier qui concernent toute la société. Donc et puis par ailleurs, on sait aussi que de nouveaux migrants arrivent, ça c'est normal qu'ils soient accueillis par leur diaspora, ils tendent à choisir les quartiers où leurs anciens compatriotes sont déjà là, donc ça c'est un phénomène assez général. Le séparatisme c'est autre chose. Le séparatisme, ben, c'est ce qui est assez bien décrit hein, dans le livre de Rougier qui connaît un grand succès actuellement parce qu'il est
Bernard
fondé,
Rougier, oui.
Bernard Rougier.
C'est un livre publié aux presses universitaires de France qui rassemble un ensemble de textes justement d'études sociologiques sur cette question-là.
Voilà, alors ce sont une série de monographies d'ampleur assez inégale, parce qu'il y a des travaux faits par des étudiants. Enfin, le constat d'ensemble qui sort de ce livre, il est assez impressionnant. Il confirme des choses qui en partie était déjà très connue. Il y a deux choses qui sont frappantes quand on lit ce livre, c'est que d'une part, tous les réseaux salafistes sont extrêmement divisés entre eux. Il y a quand même toute une chronique du mouvement. C'est un peu comme le gauchisme qui a toujours été divisé entre des quantités de fractions. Il y a la même chose dans ces mouvements radicaux. Mais en même temps, on voit très bien des entreprises de propagande, de prosélytisme, de conversion qui passent par des réseaux. Bon, c'est assez impressionnant. Il y a un chapitre affligeant sur le contenu des librairies islamiques, et ça donne vraiment une version de l'islam qui est extrêmement appauvrie, simplificatrice. Donc tout ça
avec la même problématique que pour les mosquées dont on parlait avec Georges Malbono à l'instant dans le journal, c'est-à-dire avec des financements qui permettent d'accéder à des livres peu chers, de belle qualité, je veux dire formels.
Oui, manifestement, il y a effectivement des livres de très très bon marché c'est un marché d'édition qui ne pourrait pas fonctionner s'il n'était pas subventionné, et sans doute de l'extérieur. Donc tout ça est tout à fait avéré. Maintenant, il faut aussi rappeler que dans l'histoire, les communautés religieuses minoritaires ont toujours eu des ministres, des desservants qui venaient de l'étranger. Hein. Les rabbins circulaient à travers toute l'Europe et en général, on élisait un rabbin qui venait de l'extérieur. Les communautés protestantes ont fait ça aussi pendant longtemps. Donc je crois que toute la difficulté, je pense que le président en est conscient, c'est de faire la différence entre des formes d'accueil communautaire qui sont relativement classiques dans le milieu immigré et depuis toujours, et des entreprises qui tendent finalement à radicaliser l'opposition entre l'Occident et l'Orient et à faire effectivement de la société française, du système républicain, véritables ennemis. Donc ça, c'est voilà, comment faire le départ entre une solution, je dirais, d'entre-soi qui est relativement classique et des entreprises de déstabilisation qui, elles, le sont beaucoup moins.
Mais qu'on arrive à mesurer, je veux dire, en termes de ce que ça représente par rapport aux populations qui sont présentes sur le sol. On dit souvent que le chiffre, c'est toujours un peu difficile de le mesurer, mais on dit qu'il y a entre 7 et 8% de musulmans en France, si je ne me trompe pas. Est-ce que la proportion de cette partie de la France, de la population française, qui tend vers le séparatisme, est-ce qu'on peut la mesurer?
Si vous lisez le livre dirigé par Bernard Rougier, non, vous ne pouvez pas avoir une idée de ce que ça représente numériquement. Il y a des indicateurs. Quand vous voyez que dans tel ou tel quartier, dans telle ou telle commune, il y a eu plus de 20 jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie, c'est quand même une indication de l'existence d'un noyau très dur, très fort. Mais qu'est-ce que ça représente globalement par rapport à la France entière? Ce sont des études qui sont beaucoup plus qualitatives que quantitatives. Et je dirais que c'est un petit peu comme, vous savez, la conduite automobile. Vous avez des millions de conducteurs. Parmi eux, vous avez une minorité de chauffards. Et parmi la minorité de chauffards, vous avez encore une minorité qui sont des meurtriers. Bon. Et comment passe-t-on de l'un à l'autre? Comment évaluer le risque? C'est toujours très compliqué hein, en sociologie, en économie, dans toutes les disciplines des sciences sociales, d'évaluer exactement le risque et de chercher les signes avant-coureurs. Qu'est-ce qui fait qu'un conducteur va être un chauffard? Qu'est-ce qui fait qu'il sera un meurtrier? C'est d'ailleurs des proportions qui doivent être assez semblables à ce qui se passe pour la communauté musulmane.
Oui, il y a un autre livre important d'Hugo Micheron, qui est un élève d'ailleurs de Bernard Rougier, qui s'interroge justement sur ces questions-là et qui montre bien que deux communes qui représentent les mêmes caractéristiques sociologiques, qui sont voisines l'une de l'autre, peuvent avoir des destins vis-à-vis de ces questions-là très très différents. Mais alors, on voit bien aussi quel peut être le danger politique, François Héran, de ce discours sur le séparatisme et de la volonté, tout en prenant en compte évidemment cette réalité que vous avez décrite, mais voilà, il faut aussi avoir en tête ce que ça peut porter comme discours dans un pays où, nous dit-on, 64% des Français assurent ne plus se sentir chez eux comme avant, et 66% estiment que les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer en France. C'était une enquête Ipsos Soprasteria en 2019 pour le Monde.
Alors, des enquêtes comme celle-là, de ces proportions, en gros, les deux tiers de la population qui pensent que les autres sont de trop, elles ne font pas assez d'efforts pour s'intégrer. On trouve à peu près ces mêmes chiffres, c'est assez constant depuis des années, on trouve ces mêmes chiffres à peu près partout en Europe, et ceci de façon totalement indépendante de la proportion réelle des immigrés. Donc ça, c'est frappant, c'est beaucoup plus c'est des représentations, un discours qui sont forts, il faut écouter ça, mais je pense qu'il faut aussi, si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est que vous avez vous avez deux types de réactions vis-à-vis de l'étranger, de xénophobie au sens étymologique du terme, de peur de l'étranger. Les régions où il y en a très peu, et dès que commence à en apparaître un petit nombre visible, à ce moment-là, émoi dans la population, on a la perception d'un grand changement. L'Allemagne de l'Est est typique de ça, les pays d'Europe centrale sont typiques de ça, et c'est tout à fait contraire à l'autre théorie qui est assez populaire, qui consiste à dire que plus il y a d'étrangers dans une population, plus on s'approche, on dépasse un seuil, à ce moment-là, la xénophobie se déclenche. On observe en réalité que souvent la familiarité avec l'immigration protège de la xénophobie. Donc tout ça est assez compliqué, il ne faut pas réduire tout ça à des idées simples. Moi, ce qui me frappe, et j'aime bien aussi remettre les choses en perspective du point de vue de l'histoire, c'est qu'en réalité, depuis très longtemps, depuis au moins deux siècles, il y a sans cesse la peur que des éléments allogènes, comme on disait parfois, des poches se constituent. Je me souviens de toute une discussion que j'ai évoquée dans mon cours au Collège de France, au lendemain de la Libération, et de grands juristes, dont René Cassin, des juristes qui ont été plutôt collaborateurs, là, discutent entre eux, et ils disent, vous vous rendez compte, dans les années 30, il y avait des poches allogènes dans le sud-ouest et tout, et on se dit, tiens, ils font référence à des Espagnols, ou dans le nord, ils font référence à des Polonais, ils amènent leurs prêtres, ils ont leur propre consul, ils ont, etc. Finalement, aujourd'hui, ça paraît étrange d'avoir attiré de tels soupçons sur ces communautés. Donc, il faut faire la distinction entre un communautarisme d'accueil qui est assez ordinaire, et ensuite, il faut que la République puisse permettre à tout individu de s'émanciper d'une communauté s'il le souhaite. Et c'est ça que la France a toujours fait, d'une certaine manière. On a un rapport individuel à l'État qui permet à l'individu, s'il le souhaite, d'être accueilli par la communauté, et s'il le souhaite, et ensuite, de prendre ses distances. Vous savez, je prends un exemple totalement différent, mais pour bien vous montrer. Vous êtes parent adoptif, vous adoptez un enfant, et il y a des associations de parents adoptifs. Vous avez un choix. Soit vous passez toute votre vie à fréquenter les associations de parents adoptifs, à travailler pour elles, etc., et à participer à des fêtes où vous avez des centaines d'enfants adoptés, je sais pas qui, batifolent dans le jardin, ou bien vous dites, bon, écoutez, maintenant que j'ai réussi à adopter un enfant, eh bien, je vais être quelqu'un d'ordinaire, je vais être un citoyen ordinaire, et je ne vais plus participer à ce genre de choses. Il faut que les gens et le choix. Et ce qui est redoutable dans les ouvrages auxquels on a fait allusion, c'est effectivement le fait que des gens dans des situations, alors psychologiques, sociales, politiques, tout est mélangé, sont dans une situation de telle vulnérabilité qu'ils sont du gibier facile pour des réseaux qui eux-mêmes sont très organisés, sont des réseaux qui sont pilotés depuis l'étranger. Et là, je voudrais dire quelque chose d'important. C'est pas dans le confort d'un cabinet qu'on décide si la radicalisation est psychologique, si elle est sociale, si elle est politique, etc. Il faut étudier tout ça, il faut l'étudier sur des cas précis. Et il semble bien que tous ces facteurs soient très mélangés. Je suis très frappé de voir que dans les monographies dirigé par Rougier, il y a une allusion très fréquente, par exemple, à l'absence du père chez les jeunes filles qui sont à Fleury-Mérogis, chez les radicalisés. Tous ces facteurs s'entremêlent et on ne peut pas décider d'autorité qu'il y en a un qui fonctionne et l'autre qui ne fonctionnerait pas.
Alors vous appelez François Héranne à prendre un peu de champ, de profondeur historique, ça tombe bien. Vous venez, comme je l'ai dit, de prendre la présidence du conseil d'orientation du Musée national d'histoire de l'immigration, qui est porte dorée à Paris. C'est important pour vous, on l'a dit, de revenir sur les chiffres, sur les faits. C'est aussi important de construire un discours, de construire un récit qui permet de revenir sur les fantasmes qui courent sur l'immigration. Mais ça ne suffit pas. C'est le rôle du musée de la Porte Dorée, vous le voyez comment aujourd'hui ?
Je crois que c'est un musée d'abord qui porte témoignage de tout ce que l'immigration a apporté à la France, témoignage aussi des difficultés qu'elle a rencontrées, témoignage des différentes attitudes qu'on a réservées à l'immigration, témoignage d'une dynamique qui est aujourd'hui devenue assez banale et qui est une des composantes essentielles de l'histoire du pays. Donc oui, vous avez raison, il y a un récit national. Vous savez, le récit national, il ne doit être ni de justification ni de repentance. Je trouve que ce débat est un faux débat. Il faut regarder en face les réalités de l'immigration. Il faut regarder aussi en face la relation très forte qu'elle a avec l'histoire coloniale du pays. Ça, c'est quelque chose qui va être accentué dans les années à venir et dans le projet de nouvelle exposition permanente qui est en construction actuellement. Et il faut aussi saluer les réussites de l'intégration et pourquoi pas de l'assimilation qui sont tout à fait visibles. Et voilà, il faut une vision plurielle, je dirais, de l'incorporation des immigrés dans la société française.
Alors, vous parliez justement de cette réflexion sur l'exposition permanente. Il y a eu un rapport qui est devenu un livre au Seuil en novembre dernier, dirigé par Romain Bertrand et Patrick Boucheron, les historiens Romain Bertrand et Patrick Boucheron, Fermus d'une histoire commune. Et justement, l'une des critiques qu'on pouvait faire à l'exposition permanente telle qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'elle insiste plus sur les questions d'installation, d'assimilation, que véritablement sur les questions d'apport de l'immigration à l'histoire de France. Vous faites le même constat ?
Alors, l'exposition permanente créée, je dirais, par la génération précédente, elle suivait un itinéraire assez particulier. Elle suivait le migrant qui entrait en France, qui apprenait le français, y élevait ses enfants, s'intégrait, obtenait ses papiers, etc. Donc c'était un peu l'itinéraire individuel du migrant. Là, il y a une réflexion qui consiste à dire, mais après tout, c'est un musée de l'histoire de l'immigration. Et il faut donc rétablir les droits de la chronologie. Donc il va y avoir un parcours qui sera beaucoup plus chronologique, pas simplement des dates, comme ça les dates ne sont pas toujours des tournants marquants, ce sont des paquets de dates, ce sont des périodes. Il y a les guerres qui ont une influence très importante sur l'émigration. Dans les après-guerres, on recrute à tour de bras. Par exemple, dans les années 20, on est allé chercher en Pologne des mineurs. Mais précédemment, sous Napoléon III, on est allé chercher en Belgique des tisserands et des ouvriers pour les unités textiles. Il y a tous les demandeurs d'asile qu'on a accueillis, hein, que ce soit les républicains espagnols en 39, que ce soit les militants polonais ou lombards sous la Restauration, etc. Tout ceci doit être replacé dans une perspective sans doute plus chronologique, ce qui n'interdit pas qu'on puisse aussi faire un parcours thématique à l'intérieur de l'exposition. C'est en tout cas ce que recommande le rapport Bertrand-Boucheron, et c'est ce qui est en train d'être suivi par les organisateurs de la future exposition.
Ah bah, puisqu'on parle de Patrick Boucheron, je vous propose de l'écouter, François Errant. Il était l'invité de Xavier Mauduit dans l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture. C'était en novembre dernier.
Puisque nous arrivons au bout, c'est-à-dire jusqu'à nos propres hantises, lorsqu'on a parlé par exemple de la vallée de la Roya, lorsqu'on a parlé de l'Aquarius, etc., on a tenté au fond de documenter la situation de la même manière que on documente les perruquiers noirs de Nantes au XVIIIe siècle, voilà, c'est-à-dire avec des archives et avec une distance. Il faut faire très attention à ça. Il y a aussi la question de l'art, parce que c'est un musée, donc il faut faire voir des choses. Il faut faire voir des choses, et d'une certaine manière, on ne doit pas non plus déléguer notre colère à l'art contemporain.
C'est un musée d'histoire, François Errant, mais c'est aussi un musée qui doit faire sa place à l'art, et pas seulement à l'art contemporain, dit Patrick Boucheron. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est sans doute un des plus grands défis. Jacques Toubon avait donné, qui a donc été le premier président du conseil d'orientation, avait donné au musée une orientation artistique très forte du côté de l'art contemporain.
Avec une politique d'acquisition notamment.
Oui, et cette politique, elle va continuer. Ça reste un élément fort du musée qu'il faudra canaliser sans doute. Je voudrais dire que sur les historiens, j'aimerais quand même dire quelque chose d'important, c'est que par rapport à l'époque où la première exposition du musée a été conçue, il y a eu un développement prodigieux de l'histoire de l'immigration. C'est-à-dire que des jeunes historiens de l'immigration, historiens, se sont énormément publiés. On n'est plus du tout dans la même situation qu'il y a 20 ans. Et ce sont des historiens, moi je les connais bien, j'en connais beaucoup personnellement, de très très grande qualité, qui ont réussi. Vous savez, il y avait quelques pionniers qu'on a bien connus, Gérard Noiriel, Patrick Veil, Jeannine Ponty. Mais depuis, les études historiques ont fleuri, elles ont souvent une composante sociologique très forte. permanente. Donc je crois que la nouvelle exposition permanente va porter la trace de ce renouvellement considérable des connaissances. Et en même temps, ils sont tous intéressés aux objets, aux archives, aux affiches, aux tableaux, aux installations artistiques. Et je crois que voilà, c'est un travail qui n'est pas simple, mais enfin, toutes les équipes du musée, en liaison permanente avec un groupe d'historiens, de jeunes historiens, qui assurent la suite, en quelque sorte, du rapport Bertrand Boucheron, travaillent ensemble. Et j'espère qu'on va arriver à de beaux résultats, même si on sera forcément déçu parce qu'il y a des contraintes, il y a des contraintes d'espace, la scénographie n'est pas simple, mais enfin, voilà, on y travaille.
Et on sait l'importance de l'image, de l'imagerie coloniale, de l'imagerie pour l'histoire de l'immigration. On pense aux travaux notamment de Pascal Blanchard sur ce sujet-là, François Héran. Et on sait aussi que le musée de la Porte Dorée, eh bien, c'est un musée, le bâtiment, il vient de l'exposition coloniale de 1931.
Oui, bien sûr, et nous avons fermement la décision, mais ce n'est pas moi qui apporte cette idée, elle était déjà en place, de faire en sorte que le visiteur puisse disposer, je dirais, des catégories de perception et d'intelligence de ce monument incroyable, puisque c'est le seul bâtiment qui nous reste de l'exposition coloniale de 1931, hein, qui avait occupé la totalité du bois de Vincennes, hein, c'était gigantesque. Il y avait une représentation, je crois, à l'échelle demi du temple d'Angkor Wat. C'était gigantesque. Bon, c'est un monument qui est à la gloire des colonies dans un double sens. C'est-à-dire que les fresques, qui sont très belles artistiquement, hein, montrent tout ce que les colonies apportent à la métropole. Donc, de certaine manière, c'est la reconnaissance d'un apport des colonies à la métropole. C'est pas simplement un rapport de domination. Voilà. Mais il y a aussi toute une série de noms qui sont gravés à l'extérieur avec des explorateurs, des militaires, des militaires, quelques massacreurs, certainement.
Brazaïoté.
Oui, alors Brazaïoté sont les personnages les plus... enfin, Federbe au Sénégal, ça n'a pas été toujours très propre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il va falloir initier les visiteurs à l'histoire de ce bâtiment, regarder en face. Et je répète ce que j'ai dit, ni justification, ni repentance. C'est-à-dire que il faut regarder le passé avec lucidité et regarder ce cadre extraordinaire qui nous a été légué par l'histoire avec lucidité, avec toute la science nécessaire. Et c'est comme ça que l'on pourra surmonter ce passé.
Alors justement, comment inscrire cette réflexion qui est la vôtre, à la fois sur le bâtiment, sur les expositions, sur le récit qui doit être tenu, ou en tout cas qu'on peut tenir et que les visiteurs peuvent lire quand ils visitent ce musée national de l'histoire de l'immigration, comment s'intègre-t-il à cette question dont on entend le mot d'histoire postcoloniale sans vraiment toujours savoir ce qu'il y a derrière, dont on a l'impression qu'en fait elle propose de relire la totalité de l'histoire uniquement au prisme de l'histoire impériale de la France, par exemple, François Héran?
Alors, il y a tout un discours postcolonial qui est en fait très très divisé, hein, très très partagé, avec des variantes extrêmes que, pour ma part, je récuse, et des variantes documentées qui vont dans le sens du regard lucide et pas simplement dans celui de la dénonciation. Je pense que, par exemple, les questions de réparation ont un sens. On peut se demander ce qu'il faudrait réparer à Haïti, à qui on extorquait une indemnité colossale au moment de son indépendance.
Et jusqu'à très récemment.
Oui, donc, alors, bon, il y a des... Dans la pratique, ça a été moins récent que ça, mais bon. Mais je pense que certaines formes du discours postcolonial servent un peu d'ennemis complémentaires à des formes de xénophobie qu'on peut trouver à l'extrême droite. Et je pense que ça ne fait pas avancer le débat. Et donc, oui, il y a une ligne de crête assez complexe à trouver, sur laquelle il faudra se situer, parce qu'on risque de tomber assez rapidement sur un versant ou sur l'autre. Et je pense que, justement, avec le travail des historiens, avec le travail des artistes, qui est un travail critique, lucide, mais documenté, on peut éviter tous les écueils qui nous guettent.
L'invité de la seconde partie de la Grande Table à 13h20 sur France Culture est François Héran, sociologue, anthropologue, démographe, professeur au Collège de France et président du Conseil d'orientation du Musée national de l'histoire de l'immigration.
France Culture, la Grande Table. Raphaël Bourgois.
Alors ce musée, François Héran, depuis sa création, il est pris dans une histoire aussi politique, puisque dès la volonté de Nicolas Sarkozy, le président de la République française, qui suivait, je crois, une volonté de Jacques Chirac en la matière, il y a eu la démission, on s'en souvient, du conseil de scientifique du musée, au moment où Nicolas Sarkozy crée le ministère de l'Intérieur et de l'Identité nationale.
De l'immigration et de l'identité nationale.
Il y a eu évidemment beaucoup de temps pour que ce musée ouvre, et donc c'est un musée qui est pris dans le discours politique jusqu'à très récemment, j'imagine, avec les annonces, par exemple, fin 2019, du gouvernement sur une immigration plus maîtrisée. Comment est-ce que vous vivez, vous, cette double appartenance au champ de la science, de l'histoire et au champ de la politique?
Et vous n'avez pas cité un épisode très important qui était l'occupation pendant des mois et des mois du musée par des sans-papiers, hein, à deux reprises. Écoutez, évidemment, l'immigration est un sujet passionnel. On a beau apporter des données, les données elles-mêmes sont mises en cause. Le fact-checking et les fake news ne cessent de se heurter dans un combat qui s'éternise. On a beau répéter un certain nombre de données fondamentales.
Rappelons quelques-unes de ces données fondamentales sur la réalité de l'immigration aujourd'hui, puisque par exemple le gouvernement dit qu'il faut une immigration maîtrisée, ce qui laisserait entendre qu'on est dans une immigration immaîtrisée aujourd'hui en France.
Alors, écoutez, chaque gouvernement prétend maîtriser l'immigration, et d'une certaine manière, les chiffres, on l'a bien vu encore au mois de janvier, sont assez stables, hein, depuis 2005. Les chiffres sont très stables dans les domaines absolument centraux que sont la migration familiale, d'ailleurs le nombre de conjoints de Français, les conjoints d'étrangers, enfin bon, tout ceci est très stabilisé depuis 2005, ça bouge quasiment pas. Ce qui augmente très fortement, c'est la migration estudiantine. On a maintenant en France plus de d'étudiants non européens, à peu près 90 000 contre 80 000 personnes qui entrent au titre de la migration familiale. On a une immigration de travail qui augmente, mais enfin qui est à un niveau très très faible comparé à celle de certains pays d'Europe ou de l'OCDE. La migration de l'asile, du refuge a un petit peu augmenté, mais enfin c'est la moindre des choses avec la crise que nous avons connue. Donc au total, on ne peut pas dire qu'il y a une explosion de la migration. Enfin, notre situation n'a rien à voir avec celle qu'on a observée en Allemagne. On a finalement, le politique a une marge. Il arrive à contenir les flux, si vous voulez, mais il n'arrive pas du tout à les réduire au niveau que souvent il souhaiterait. On ne peut pas diviser les flux par deux ou par trois ou par dix, comme l'ont dit beaucoup de politiques. Ça, c'est totalement impossible. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment un quart de la population qui est soit immigrée, soit enfant d'immigrés. Voilà. Et donc, le musée de l'immigration, pour revenir à lui, c'est un musée qui s'adresse évidemment à toutes les populations qui ont un rapport, un lien avec la migration, et ça fait au moins un tiers de la population si on remonte à la génération des grands-parents, et ça s'adresse aussi effectivement au reste de la population, ça s'adresse à toutes les catégories, et je pense que c'est justement parce que cette distinction entre eux et nous est en train de disparaître, mais enfin de se relativiser, que ça devient intéressant de regarder cette histoire. Non, on n'arrivera jamais à dépassionner tout ça, je pense que... Mais moi, mon optique n'est pas celle d'une dénonciation ou d'un combat, je cherche simplement à retourner aux faits et à exalter aussi un certain nombre de réalisations. Qui peuvent être des réalisations sociales, historiques, légales. Notre parcours historique dans la migration permanente va aussi marquer les grands moments d'émancipation, les grandes lois qui ont régulé l'immigration. 1790, c'est l'émancipation de toutes les religions, des juifs notamment. Vous avez 1927 qui est la grande loi de naturalisation. Vous avez les grandes lois qui font que nous avons une combinaison de droit du sang et du droit du sol sol, qui est extrêmement efficace. 1851, le droit du sol, c'est ancien. 1889, sa confirmation et son extension. 1803, c'était le droit du sang, le code civil. Nous avons tout ça. Tout ça se superpose, tout ça continue de nous régir. Et je pense que c'est en ayant conscience de tout ce passé qu'on arrivera, je pense, à dépassionner un certain nombre de choses. Bien sûr, 1948, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen signée à Paris, voilà encore un grand moment, enfin on pourrait les multiplier.
Oui, mais tout ça, François Héran, est très important, mais aussi un peu loin dans l'histoire. Aujourd'hui, il y a un discours politique, on l'a dit, qui s'oriente sur les droits indus, encore une fois, des immigrés en France, là on parle plutôt des réfugiés ou de ceux qui viennent sur le territoire avec des fraudes aux prestations sociales, un tourisme médical supposé. C'est ça le discours qu'on entend de l'autre côté. Mardi 21 janvier de cette année, il y a eu un rapport adressé au président de la République par un certain nombre de personnalités issues de la haute administration, du monde de l'entreprise, syndicale, associatif ou universitaire, qui entend justement sortir de ces discours tels qu'ils se développent pour véritablement remettre au cœur la question de politique publique sur ces questions de l'immigration, prendre des mesures courageuses, par exemple, sur la régularisation d'un certain nombre de personnes sans papier en France.
Alors, vous faites allusion donc à ce rapport publié par un collège de praticiens, c'est ainsi qu'ils se sont désignés, qui a été publié le 21 janvier dernier. Bon, vous ne trouverez pas dans la future exposition du Musée national d'immigration un commentaire ou une présentation de ce rapport. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter à 2015, qui marque le début de la crise migratoire, de la crise des réfugiés, comme les journalistes l'ont appelé communément. Bon, maintenant, si vous voulez que je commente un petit peu ce rapport, je crois que c'est un rapport qui est... ce qui est très intéressant, c'est qu'il est mené par des gens qui effectivement viennent d'horizons très différents. Vous avez le secrétaire national de la CFDT, vous avez un historien aussi reconnu que Patrick Veil, vous avez Pascal Brice, ancien président de l'OFPRA, vous avez des dirigeants d'associations humanitaires ou de gens qui sont occupés de la question du logement, je pense à Jean-François Carinco, ancien préfet, donc des gens extraordinairement compétents. Ce qui m'a frappé dans ce rapport, c'est que, bon, d'abord, tout ceci est mis sous le label républicain, une politique républicaine. Et cette politique républicaine, c'est une république un peu de mise en ordre. Je suis frappé de l'usage un peu systématique, parfois saturé, du mot républicain pour désigner des politiques qui se veulent à la fois ouvertes, mais quand même fermées, humaines, mais fermes, etc. En réalité, dans le rapport, vous avez des ouvertures très fortes, par exemple, réintégrer l'aide médicale d'État dans un régime plus général, dans la PUMA. Vous avez des mesures de simplification administrative qui sont vraiment tout à fait souhaitables. Vous avez une des parties les plus intéressantes du rapport, c'est tout ce qui concerne le logement et le travail, où là, manifestement, il y a des progrès à faire. Moi, j'ai trouvé le rapport extrêmement intéressant là-dessus. Par contre, j'aurais des réserves sur l'idée qu'il y aurait un abîme entre les gens qui respectent la loi et ceux qui ne la respectent pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Plus compliqué que ça. Et c'est cette complexité qu'on peut voir, François Héran, en tout cas peut-être qu'on pourra voir au Musée National de l'Immigration, de l'Histoire de l'Immigration. Merci d'être venu en parler au micro de La Grande Table, et merci aussi à toute l'équipe. La Grande Table Culture, c'est Oriane Delacroix et Henri Leblanc. Pour La Grande Table Idée, Bruno Barada et Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse de Philomène Viard et de Marceau Vassy. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien, et à la technique, Jean Guilin-Meige.